Bonjour à tous, bienvenue sur Studio ZEF 91.10 FM à Blois. Dans le cadre de notre série sur les acteurs de l'économie sociale et solidaire, nous nous penchons sur une SCOP née au cœur de la Sologne et œuvrant pour la construction et l'ingénierie écologique. Pour nous la présenter, nous recevons aujourd'hui Frédéric Loyau, un des cofondateurs de la SCOP Fiabita. Bonjour.
Bonjour.
Alors, dans cette émission, nous allons nous intéresser à ce choix, c'est-à-dire pourquoi une SCOP plutôt qu'une SA ou une SARL. Mais avant, j'aimerais parler de ton secteur d'activité et aussi de ton parcours. Fiabita a été créé en 2003. Qu'est-ce qui t'a amené à créer cette SCOP ? Est-ce que ce sont tes études ou plutôt tes convictions ?
Alors en fait, notre parcours, il est un peu particulier parce qu'au départ, à l'époque, en fait, on avait une vingtaine d'années, moi et donc la personne qui a créé l'entreprise. Et on était en train de finir nos études, en fait, hein, très concrètement. On faisait nos études dans le bâtiment. Moi, je finissais un BTS. Et on avait toujours un peu eu l'intention de travailler dans la construction écologique. Il n'y avait pas d'opportunité. Puis en plus, au début des années 2000, la construction écologique n'était pas vraiment existante, on va dire, dans la région. C'est-à-dire, on en parlait, on commençait un petit peu à voir un peu des trucs qui se faisaient, mais c'était pas forcément très bien structuré. En tout cas, nous, si on aurait voulu travailler dans une entreprise qui fait de l'éco-construction, on n'aurait pas pu trouver d'entreprise, puisqu'il n'y avait pas d'entreprise, en tout cas, dans ce qu'on voulait faire. Donc, il s'est trouvé qu'il y a eu un concours de création d'entreprise qui était organisé par l'Université d'Orléans pour des étudiants en fin de cycle. Et donc, c'était un concours pédagogique. En fait, l'idée, c'était d'accompagner les étudiants de manière à ce qu'ils voient un peu comment ça fonctionnait, qu'ils fassent un business plan, tout ça. Nous, on s'est dit, tiens, ça va être intéressant de voir un petit peu si le projet qu'on voulait faire, il était viable. Et donc, on a proposé le projet Fiabita à ce concours-là. On a gagné ce concours. Donc on était assez content, on est reparti avec je crois 1 500 euros, et puis il y en avait un deuxième dans la foulée où là c'était une aide vraiment à la création réelle de l'entreprise. Donc là on se dit au départ en fait quand on a 20 ans on se dit le problème principal c'est surtout qu'on n'a pas d'argent en fait. Donc pour créer la structure, la mise de départ, on ne l'avait pas quoi. Donc là pour le coup ces concours là nous ont permis de pouvoir avoir un petit peu de sous pour pouvoir démarrer, et puis donc on a passé ensuite un an à créer l'entreprise, à rencontrer l'ensemble des acteurs et puis aussi à solidifier un peu notre projet, parce que quand on dit faire de la construction écologique, c'est bien. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait pour que on puisse avoir des gens qui souhaitent faire appel à nous? Et puis, quelle activité concrètement on fait? En plus, étant dans un cadre où on finissait nos études, on n'avait pas d'expérience ni du monde de l'entreprise, ni en plus de l'éco-construction. En fait, on a vraiment profité de l'occasion pour se dire on va tester, on va voir si ça peut fonctionner, et puis on se formera un peu sur le tas quoi. De toute façon, on va dire à l'époque, c'était pas à l'école qu'on pouvait apprendre ces principes là quoi. Ils l'ont intégré, mais beaucoup plus tard. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. On se retrouvait donc fin 2003. On s'est vraiment lancé et puis ça a pris beaucoup de temps à ce que le projet il soit à l'équilibre financier. Nous on a mis à peu près 4 ans pour pouvoir être autosuffisant, puis donc là depuis le projet s'est développé, maintenant on est 4 personnes dans la coopérative. Et les activités aujourd'hui qu'on mène nous permettent par exemple de pouvoir nous payer normalement. On a passé ce cap de la création et des difficultés liées à la création de Fiabita.
Est-ce que c'est ta sensibilité au thème de l'environnement qui a fait que tu as pris cette direction, l'éco-construction, plus qu'une construction, de gratte-ciel en verre ou quelque chose d'autre ?
Alors, je ne saurais pas trop quoi répondre. En fait, je sais juste qu'en fait, à ce moment-là, c'était vraiment un domaine qui me faisait envie. Parce que effectivement, en fait, à l'époque, j'avais déjà une bonne sensibilité environnementale, et puis on avait un peu envie de changer le monde, quoi. Et donc, on avait vraiment l'intention. Enfin, le projet Fiabita, c'était pas simplement de faire quelque chose, on va dire, pour nous, mais c'était aussi de créer un outil d'intérêt général. Donc, d'expliquer la construction écologique, comment ça fonctionne. Donc, on a fait un site, et puis on le met à jour régulièrement pour produire de l'information mise à disposition gratuitement sur ce site internet. Donc, de produire de l'information, souvent très critique, d'ailleurs, pour, donner un peu notre avis sur ce qui se passe et comment il faudrait mener les choses. En fait, c'est des sujets qui aujourd'hui sont assez d'actualité, mais quand on parle de transition énergétique, la question qui reste ouverte, c'est comment on l'a fait et concrètement comment ça va se passer. Et puis, le projet économique. Après, bon, c'était plus en fait d'arriver à sensibiliser les gens que la construction écologique, fallait pas en avoir peur, que ça pouvait être intéressant, que ça avait que des avantages. Et puis donc après, au fur et à mesure, ce qui s'est passé, c'est que la construction écologique s'est développée. Bon, pas grâce à nous, mais on va dire, on a été dans un mouvement en fait où on en a de plus en plus parlé. Et puis, il y a de plus en plus d'acteurs qui se sont regroupés pour faire de la construction écologique. Et donc aujourd'hui, en fait, on est dans un domaine où c'est complètement sorti de l'oubli, on va dire. Et à la limite, il faut même plus lutter contre toute la propagande un peu qui peut être véhiculée sur des constructions classiques qui sont appelées écologiques parce que, en fait, le communicant a trouvé que ça faisait sympa. Donc ça nous amène à devoir définir bien qu'est-ce qu'on met dans la construction écologique, quoi.
D'ailleurs, toi, quand tu as commencé, vu que tu as appris un peu sur le tas, tu as dû être confronté justement à tous ces termes et puis notamment à ces... on parle de, par exemple, réglementation thermique. Donc, on sait qu'on doit respecter cette réglementation thermique, mais est-ce qu'un bâtiment va être vraiment écologique si il est dans cette réglementation thermique ?
Alors, la réglementation thermique va fixer des cadres différents en fonction de si on parle d'une maison individuelle, si on parle d'une maison à rénover, si on parle d'un projet plus important. Il y a une grande complexité déjà dans la réglementation. Il faut vraiment voir ça comme un garde-fou. On ne peut pas faire pire que ça. Donc, entre le mieux et ce garde-fou, en fait, il y a tout un champ, on va dire, des possibles qui est, c'est vraiment très ouvert, quoi. Par exemple, rien n'empêche aujourd'hui de faire une construction en utilisant des matériaux biosourcés, c'est-à-dire issus de l'agriculture, issus du sol, issus de la biodiversité. Rien n'empêche de faire des bâtiments qui sont très performants et qui utilisent des énergies renouvelables, c'est-à-dire qu'ils soient vraiment totalement indépendants des ressources de l'énergie fossile et qui soient très vertueux en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Donc là, la réglementation va fixer un cadre, mais en fait, on peut totalement considérer qu'il est nettement insuffisant par rapport aux enjeux qui entourent ces sujets-là. Sur la question du changement climatique, il faudrait construire des bâtiments plus performants que ce que la RT, que ce que la réglementation thermique permet de faire. Donc c'est pour ça qu'il faut encore sensibiliser pour pouvoir aller vers, on va dire, un mieux-disant à ce niveau-là. D'autant que souvent, c'est pas incompatible avec des notions de confort ou de qualité de vie. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une notion qui est très importante, c'est la conception du bâtiment. Faire une conception qu'on appellera bioclimatique, qui permettra de pouvoir orienter sa maison par rapport au soleil, construire quelque chose de compact, qui permettra de pouvoir, on va dire, bénéficier au maximum des apports solaires qui pourront préchauffer gratuitement le bâtiment. Et puis, dès l'instant après où le bâtiment il est correctement isolé, en fait, le reliquat qui reste à chauffer peut être ridicule. Souvent, sur les constructions qu'on suit, une petite maison chauffée avec un poêle va consommer un ster de bois par an. Enfin, on est sur l'éco-construction permet ça, en fait, c'est de permettre d'avoir des bâtiments qui sont très économes en énergie, qui donc, on va dire, coûtent pas grand-chose à utiliser, sans pour autant être dans des logiques où on va payer beaucoup plus cher. Parce que donc là, quand on parle par exemple de matériaux biosourcés, il y en a qui
peut faire peur quand on parle d'éco-construction, c'est le coût de la construction ou de la rénovation d'un bâtiment.
C'est aussi pour ça, en fait, que la réflexion elle doit être globale. Et si on prend par exemple un des matériaux biosourcés qu'on a en grande disponibilité dans la région, c'est la paille. Oui, aujourd'hui, la paille, ça coûte pas grand-chose parce que c'est un matériau qui est pas souvent pas utilisé à ce jour. Et donc, on pourrait. Il y avait même une étude qui montrait qu'on pourrait construire tous nos bâtiments neufs en paille en utilisant la ressource disponible. Enfin, il y a véritablement pas de problème de disponibilité. C'est des matériaux qui sont, on va dire, très très bon marché. Donc, il y a pas forcément, on va dire, d'incohérence entre maison écologique et maison, on va dire, réservée simplement à une clientèle élite. Qui a les moyens de pouvoir se payer une maison efficace.
Qui fait appel à vous, des particuliers, des entreprises, des municipalités ?
Alors au départ, c'était surtout des particuliers, parce que, on va dire, l'éco-construction, c'était vraiment, au départ, c'est vraiment à la base, en fait, qu'il y a eu une demande de gens qui... ont au départ, c'était beaucoup des autoconstructeurs qui réalisaient ensuite eux-mêmes leur maison ou partiellement. Après, on a vu se démocratiser peu à peu la construction chez, par exemple, des charpentiers qui font la construction bois, avec des architectes qui font des projets, qui ont vu arriver une clientèle de gens qui étaient de plus en plus intéressés par ces sujets-là. Là, on est passé à un autre palier où il y a de plus en plus... par exemple, sur le sujet de la construction paille, c'est un sujet qui est soutenu officiellement par la région Centre et qui va inciter l'ensemble des acteurs, on va dire, à faire des expérimentations, à faire des projets de manière à pouvoir faire que le noyau de professionnels, d'entreprises qui sont aptes à pouvoir utiliser ces matériaux-là et à répondre à une demande, se structure. Donc aujourd'hui, on voit de plus en plus des logements sociaux qui vont se faire en éco-construction, des bâtiments publics, on va dire, il n'y a plus véritablement de restrictions en fait sur ces sujets-là.
Alors vous avez développé un outil qui s'appelle le Fiabiscope, un outil qui permet d'analyser les résultats d'analyse thermique, donc une analyse d'analyse. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu comment vous avez développé cet outil ?
Alors en fait, c'est pas aussi compliqué que ça y paraît. En fait, nous on intervient souvent en amont des projets et donc et puis on est assez critique envers les réglementations. Donc en fait, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, dès l'instant où on a pris la mesure que respecter les réglementations c'est bien, mais c'est insuffisant. La question qui se pose, c'est par exemple sur des thèmes comme celui du changement climatique ou sur celui de la disparition des ressources fossiles et minières, c'est quels indicateurs seraient pertinents pour voir si le projet il est réellement efficace ou pas. Donc, en fait, on définit des thèmes qui sont des enjeux en fait qui sont importants pour le projet, et puis on voit comment le projet il se situe en fait. Donc ça, c'est vachement intéressant pour pouvoir au moment où on est dans la phase où le bâtiment il est en train d'être conçu, on est en train de faire les choix, de pouvoir prendre des décisions en connaissance de cause. C'est-à-dire si on se fixe simplement sur la réglementation ou sur rien du tout, on n'a pas forcément idée de si le projet qu'on construit il est bon ou pas. Donc le Fiabiscope, en fait, c'est son rôle. En fait, c'est un outil qui permet de pouvoir discuter en amont avec la personne qui fait construire pour déterminer ensemble ce que sont les ambitions du projet. Donc, pour résumer, on va avoir tous les thèmes qui vont toucher à la consommation du bâtiment, donc réduire au maximum l'impact écologique du bâtiment. Il va y avoir les choix au niveau des matériaux, des systèmes constructifs, comment on construit le bâtiment, avec quel matériau. Il y a la logique des circuits courts, faire en sorte de réduire le déplacement des matériaux. Et donc, là, par exemple, en Sologne, la question qui est posée, c'est la disponibilité de l'énergie bois et de la construction et de la possibilité de construire en bois à partir des ressources forestières qui sont importantes. Il y a la question des coûts de fonctionnement, il y a la question du retour sur investissement. Enfin, il y a tout un tas de sujets. Il y a le sujet de l'eau également qui sont importants d'aborder au moment de l'acte de construire. Et donc, cette grille-là nous permet de pouvoir accompagner les gens pour qu'ils voient à peu près comment ça se passe, en fait.
D'accord, très bien. J'ai vu que vous faites aussi de la vente grâce au Fiabishop, c'est ça ?
Ouais, alors bon, ça en fait c'est la possibilité que nous permet en fait l'aspect coopératif, c'est-à-dire en fait on a un projet dont l'objectif c'est de développer la construction écologique, et donc à partir de là on a développé différentes activités qui sont gérées par différents coopérateurs. sur ce thème-là. Donc, on a développé en 2007. Enfin, la question s'est posée en 2007 de comment développer un système qui nous paraissait vraiment génial à l'époque, qu'on appelait les puits canadiens. Mmh. Alors, les puits canadiens, en fait, pour que les gens comprennent, c'est un système qui est simplement en fait un tuyau qu'on va enfouir dans le sol à proximité du bâtiment. Et l'idée, c'est de faire passer l'air. Celui qu'on va respirer, dans le sol, de manière à pouvoir le préchauffer en hiver et le rafraîchir en été. C'est-à-dire, en fait, quand on parle des énergies renouvelables, on parle surtout des systèmes qui permettent de pouvoir chauffer, mmh. Produire de l'eau chaude, mais des systèmes qui permettent de rafraîchir, il n'y en a pas beaucoup, en fait. Et celui-là, en fait, c'est un système très simple, qui vraiment est accessible à beaucoup de gens qui sont dans des situations de surchauffe. Donc, à l'époque, en fait, il n'y avait pas véritablement d'offres sur le sujet. Donc, nous, on s'est dit c'est une solution qui nous paraît intéressante. Comment on peut essayer de faire en sorte que ce sujet-là se développe et se développe, on va dire, dans le bon sens, c'est-à-dire avec des choses, avec des dimensionnements qui soient fonctionnels, quoi, que les gens ne se retrouvent pas à avoir une maison malsaine parce qu'ils ont fait un truc, ils pensaient faire bien et puis en fait ça ne marche pas. Donc on les accompagnait et puis les gens réalisaient eux-mêmes et puis en fait on s'occupait de la partie fourniture parce qu'on n'avait pas de solution alternative à l'époque. Donc aujourd'hui en fait l'activité s'est développée. En fait on a la personne qui s'en occupait a pérennisé un peu son activité depuis 2007 et ça s'est bien développé depuis. On a fait un site pour vendre derrière ces équipements-là. Et tout en étant dans cette logique où finalement, c'est pas forcément l'aspect vente en fait qui est important, c'est plus l'aspect conseil, et puis d'expliquer un peu aux gens ces sujets-là concrètement, comment il faut les aborder quand on fait un projet de construction.
Pourquoi t'as choisi le fonctionnement en scope? Enfin, vous avez choisi, vous étiez deux à la base, c'est ça?
Alors, je dirais qu'au début, ça faisait partie des choses qui étaient pas tellement négociable, quoi. En fait, il faut vraiment se resituer dans ce que je disais tout à l'heure sur comment l'entreprise a été créée. Déjà, en fait, la question qui s'est posée, c'est est-ce qu'on crée une entreprise ou une association? Enfin, il y avait à la fois, on va dire, un objet économique qui était plus lié à ce qu'on voulait faire, développer la construction écologique, et puis il y avait un objet qui était plus de travailler dans l'intérêt général, de faire reconnaître la construction écologique. Mais en tout cas, il y avait bien une chose qui était certaine, c'était que moi et la personne qui a créé l'entreprise avec moi, on n'avait pas l'intention d'en faire un projet financier. C'est-à-dire que dans la mesure où l'entreprise vient se développer, il n'était pas question qu'on soit là, nous, fondateurs, à dire bon bah voilà, l'entreprise nous appartient, et puis la personne qui nous rejoint, elle devient un peu sous-fifre, quoi. Donc ça, ce principe-là, de toute façon, nous, on n'en voulait pas. Parce qu'on va dire, on partait pas du principe qu'on crée une entreprise pour en avoir la propriété. Et donc, on avait connaissance un peu de l'existence du statut SCOPE. Et puis, en fait, le souci surtout qui s'est posé, c'est que comme on a été accompagné justement dans le cadre de tous ces parcours, on va dire, pour la création d'entreprise, nous, on leur disait, on va faire une SCOPE. Et puis, on nous répondait, oulala, vous devriez pas faire une SCOPE, c'est suicidaire, faut rester sur des choses traditionnelles. Enfin, c'est quelque chose qui, à l'époque, faisait vachement peur. Les gens se disaient, mais dans quoi vous partez? Votre projet, il est bien, mais par contre, là, la SCOPE, non, sérieusement, quoi.
Déjà que vous faites des bâtiments écologiques, alors en plus, vous faites une SCOPE.
Voilà, alors nous, dans le projet, en fait, on leur expliquait, on leur disait, ben voilà, la SCOPE, c'est pas non plus quelque chose qui est très, très différent des sociétés standards, en fait. C'est simplement que le jeu des pouvoirs, on est sur une base démocratique, mais à la limite, c'est un petit peu comme tous les discours qu'on peut avoir autour de, à la limite, ça fonctionne parce que vous êtes 4 ou 5. Si la boîte elle est plus grosse, ben ça peut plus fonctionner. Bon, ben la France c'est une démocratie, il y a 65 millions de personnes. Bon, je dis pas que ça marche très bien, mais en soi ça peut s'appliquer sur, on va dire, un nombre de coopérateurs qui est relativement important. Et il y a parmi les SCOP qui existent en France, il y en a qui ont plusieurs milliers de salariés. Donc en soi, il y a pas véritablement de limite à ce niveau-là, mais dans la perception qu'en ont les gens qui à l'époque accompagnaient à la création d'entreprise, c'était quelque chose qui était vraiment repoussant. Bon, nous on l'a fait quand même.
Et pourquoi il y avait cette peur de la SCOPE? Enfin, quelque chose qui repoussait, c'était tout simplement peut-être par méconnaissance.
Je pense que c'était la peur de donner le pouvoir aux salariés. C'était l'idée. Je pense que bon, nous, on a peut-être une vision en fait qui est claire au début. Si des personnes nous rejoignent, ça va foutre le bordel. Mmh. Donc c'est un peu l'idée où en fait il faut absolument rester la personne qui crée l'entreprise, un petit peu le gourou qui va montrer la voie. Et puis les salariés, les personnes qui rejoignent la structure, en fait, ils sont d'accord. Et ils continuent, ils sont pas d'accord et ils dégagent, quoi. C'est un petit peu, je pense, la vision qui ressort. Je dis pas qu'elle est généralisée, mais à l'époque, en tout cas, nous, ça nous avait un peu fait rire, en fait, de voir qu'à chaque fois qu'on disait scope, on présentait à chaque fois le statut dans tous ces concours-là, dans toutes ces assistances, et c'était quelque chose qui faisait un peu bizarre. Et bon, d'ailleurs, hein, quand on regarde, on va dire aujourd'hui, par exemple, le RHR, je crois qu'il y a 3 ou 4 scopes dans le département. Ça reste quelque chose qui est, on va dire, trop peu utilisé par les entreprises.
Bah pour compléter ta définition un peu de scope, on va écouter un extrait d'une conférence de David Kella, économiste à l'Université d'Angers et membre des économistes atterrés, qui a été enregistrée au Café Labo le 18 septembre, et il donne sa définition.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'une société coopérative ? Eh bien, cette fois-ci, ce n'est pas les usagers qui vont se mettre ensemble, ce sont les travailleurs, ceux qui sont au travail. Donc, alors c'est ce qu'on appelle les scopes, c'est les coopératives dans lesquelles les salariés possèdent leur propre entreprise. Alors là, déjà, vous voyez que finalement, on rompt avec un aspect important du capitalisme. C'est-à-dire que là, le salarié n'est pas juste un pion ou une ressource, c'est lui qui dirige. C'est les coopératives, ce qu'on appelle les scopes, les coopératives ouvrières de production, société coopérative ouvrière de production, où on dit aussi société coopérative participative, les deux vocables signifient la même chose. Donc ils sont fondés sur le principe un homme, une voix, et ce sont bien ici les travailleurs, ceux qui participent à la production, qui s'associent. Donc ils votent pour désigner leurs dirigeants, qui votent pour désigner leur stratégie, et donc ils sont complètement acteurs de leur entreprise. Donc là, on rompt quand même avec une chose importante du capitalisme. Cependant, alors il y a beaucoup de scopes. Hein. Je prends des exemples. Celles dont on entend souvent parler, qui sont les plus connues, c'est chèque déjeuner. Hein, vous connaissez chèque déjeuner. Ben, c'est une scope. On vous disait peut-être le mensuel alternative économique. C'est aussi une scope. Et puis on a récemment parlé de pas mal de scopes, parce qu'un certain nombre de sociétés, parfois en faillite, se recréent sous forme de scope. La loi Hamon récente de 2014 visait justement à aider un peu les salariés à reprendre leur outil de travail lorsque l'entreprise faisait faillite ou était mise en redressement judiciaire, permettre aux salariés de racheter leur propre entreprise pour créer sous forme de scope. Alors cela dit, les scopes restent marginales dans le système économique. Ce qui empêche leur développement, c'est plusieurs choses. La première chose, c'est que, comme je dis, il faut avoir des fonds pour acheter son entreprise. Et comment fait-on pour avoir ces fonds au départ ? Il faut déjà être riche. Or, si on est salarié, on n'est pas riche. Donc là, vous voyez, il y a une contradiction. Alors bien sûr, on pourrait demander de l'aide à une banque, mais les banques n'ont pas forcément, parfois être un peu frileuses à prêter à un ensemble de salariés qui se mettent ensemble pour essayer de créer leur propre entreprise. Donc tout ça n'est pas simple. Le développement des scopes est difficile. Leur capacité à se financer aussi est difficile, puisque par définition une scope, le capital est détenu par les salariés, donc on ne peut pas vendre des actions pour se développer, comme dans les startups, hein, on a des business angels qui vont financer, mais en échange du financement, ils demandent un droit de regard, un droit de participation. Or, dans une scope, ce n'est pas possible, c'est contradictoire avec l'esprit même de la scope, où ceux qui participent parce qu'ils sont salariés. Donc on ne peut pas faire intervenir des participants extérieurs, et surtout pas des gens qui achèteraient la moitié du capital de l'entreprise pour décider de la moitié des choses, parce que non. Alors si on dit un homme, une voix, qui c'est qui va prêter pour la moitié ? Donc voilà, il y a des contraintes, comment dire, légales qui empêchent la scope de se développer parce que simplement elle n'a pas accès à des financements, elle a accès aux prêts bancaires, voilà, mais ce n'est pas toujours suffisant. Elle n'a pas accès aux autres sources de financement qui, eux, sont possibles pour des sociétés privées. Le troisième problème des scopes, c'est qu'elles sont souvent créées sous un statut juridique de société anonyme, de SARL, ou de. Ce sont des sociétés, en fait, comme les autres, officiellement, juridiquement. Alors. Du coup, elles n'ont pas de droits spécifiques. Elles sont peu soutenues par les pouvoirs publics. En fait, elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés de la même façon que les autres. Voilà, c'est comme une SA, une société anonyme, sauf que le capital, il est entre les mains des salariés. Mais au fond, ça ne change pas grand-chose sur le fonctionnement officiel. Alors, la seule chose qu'elles ont comme avantage fiscal, c'est qu'elles sont exonérées de la contribution économique territoriale, ce qui remplace la taxe provisionnelle, hein, c'est un impôt local. Voilà, mais ce n'est pas l'essentiel des impôts des sociétés. Et voilà, elles sont finalement assez peu soutenues par les pouvoirs publics.
Voilà, c'était David Kaila, économiste de l'université d'Angers et membre des économistes atterrés. Toi, tu en as pensé quoi de cette définition ?
C'est tout à fait ça, en fait. Je dirais qu'en fait, il y a un contexte historique et il y a aujourd'hui les nouvelles sociétés de services, dont Fiabita, on va dire, on fait un peu partie, où on n'a pas du tout les mêmes contraintes. Et j'ajouterai quelque chose aussi par rapport à la question du financement. Nous, dans notre projet d'entreprise, au départ, quand on crée l'entreprise, en fait, la SCOP nous demande à ce que le capital soit détenu par les salariés. Donc, bon, quand on est deux et puis qu'on est salarié, en fait, ça pose pas de problème. Clairement, effectivement, si on souhaitait accueillir des fonds extérieurs, en fait, faudrait pas le faire sous cette forme-là. Donc, dans ce cadre-là, il ne faudrait pas créer une SCOP. C'est-à-dire que vraiment, il y a l'idée de départ, et qui est vraiment importante, que le capital de la SCOP, il est composé par ses salariés. Ça, c'est le problème à la création. Parce qu'en prêt, on va dire, quand il y a une troisième personne qui nous rejoint, comment ça se passe ? En fait, pour qu'elle devienne coopérateur, c'est-à-dire qu'au départ, en fait, il y a vraiment une dissociation entre le statut de salarié et le statut de coopérateur. Le salarié n'a pas de pouvoir particulier dans la SCOP. Il en acquiert quand il achète une part sociale qui lui permet de pouvoir acquérir un statut. Alors, on ne dit pas tellement associé, on dit plus coopérateur dans la SCOP. Et donc, ce qui lui permet de pouvoir avoir le même pouvoir de décision que n'importe quel autre. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est que vraiment, c'est pas le montant financier qu'on détient dans l'entreprise qui va déterminer si on a plus raison ou pas que les autres. Donc, on va dire, on va attendre. C'est, par exemple, dans nos statuts, en fait, on a l'obligation de proposer aux salariés qu'ils deviennent associés au bout d'un an. Donc, ça nous permet d'avoir un peu de temps pour voir, de connaître la personne. Donc, nous, en fait, on leur demande de devenir sociétaire. Donc, ils achètent une part sociale. Donc, chez nous, c'est 25 euros. Donc, en fait, c'est pas un problème financier de pouvoir devenir sociétaire d'une SCOP. Et puis, le capital, ils vont se le constituer progressivement. Donc, il y a souvent dans les SCOP des souscriptions sur salaire, qui fait qu'en fait, il y a une toute petite partie du salaire qui est gardée par l'entreprise et qui constitue le capital social que le salarié va se constituer progressivement. Donc, ce qui fait que la principale source, en fait, de financement des SCOP, c'est l'autofinancement, en fait. C'est le fait que chaque salarié, en fait, va progressivement permettre d'augmenter régulièrement le capital social de l'entreprise. Pour ce qui est de Fiabita, quand on a démarré, on avait 3000 euros de capital, on était vraiment au taquet. Et puis là, aujourd'hui, on a 30 et quelques mille euros de capital. C'est-à-dire, en fait, la principale source de financement, c'est vraiment l'argent qui est constitué par l'acquisition progressive de capital. C'est pour ça qu'on dit que c'est les sociétés à capital variable. En fait, le capital, il va avoir tendance à augmenter naturellement. Ce qui fait que si on prend des scopes qui ont 30, 40 ou 50 ans de vie derrière elles ont un capital monstrueux. Et donc, elles ont des fonds propres également qui est importante. Donc, la principale source de réinvestissement et d'investissement dans des nouveaux outils de la SCOP, c'est l'autofinancement. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne et puis ça ne nous pose pas de difficultés. Après, il y a le cadre des SCOP qui sont créés, donc qui sont des reprises d'entreprises en difficulté par les salariés de ces structures-là. Là, ce qu'il faut dire, c'est que le réseau des SCOP, donc les 3500 SCOP de France, cotisent à l'Union nationale des SCOP et ces réseaux-là, en fait, sont dotés d'outils qui permettent d'accompagner à la création de nouvelles SCOP. Donc il y a un fonds, notamment, qui existe, qui permet aux SCOP de financer, en partie, la reprise d'entreprises en difficulté en SCOP. Alors, après, en fait, il faut bien définir ce que c'est, parce qu'en fait, quand on a une entreprise qui est en difficulté, il faut voir pourquoi elle est en difficulté. Est-ce que c'est un problème de gestion, mais l'entreprise peut repartir parce qu'il y a un carnet de commandes, il y a ce qu'il faut pour pouvoir redémarrer, ou est-ce que l'activité, elle est vraiment pas viable du tout, et donc l'entreprise, si elle est en difficulté, ben, en fait, le fait qu'elle soit en SCOP ne la sauvera pas. Donc, l'accompagnement, en fait, que propose l'Union des SCOP, en fait, va dans ce sens-là. C'est, il y a un accompagnement technique qui permet de voir si la structure est viable, comment elle peut redémarrer, et un accompagnement accompagnement financier sous forme de prêt qui permet de pouvoir redémarrer progressivement. Ça permet aussi de contrer un petit peu le fait que les gens qui disent voilà, on mute une entreprise en scope soient un peu perçus pas très bien par le système bancaire classique. Dans les cas de figure là que j'ai présenté entre une entreprise comme la nôtre et puis une entreprise industrielle qui veut se reformer sous forme de scope, on n'est pas du tout sur les mêmes logiques. C'est-à-dire que la logique importante quand on a une création de scope en reprise par ses salariés, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir les salariés qui passent d'un fonctionnement où ils sont salariés enrôlés par un patron pour exercer des tâches à c'est leur entreprise. Et ils s'investissent beaucoup plus, ils comptent pas leurs heures, ils peuvent vraiment se dire que l'entreprise, c'est vraiment le bien commun de l'ensemble des gens qui travaillent dans ces structures. C'est vraiment quelque chose, en fait, qui est fondamental, en fait, dans la perception du sujet. Quand on travaille dans une scope, on travaille pas dans une entreprise normale. Et ça doit se traduire, en fait, dans la manière, en fait, de fonctionner. Après, nous, en fait, notre outil de production, étant donné qu'on est plus dans une activité de service, ben, c'est 2-3 ordinateurs, enfin, c'est pas grand-chose, mais c'est plus l'idée, en fait, que on est aujourd'hui 4 coopérateurs dans la structure. Bon, ben, en fait, on décide ensemble des orientations données à la structure. En fait, ce principe-là devrait être la règle. Enfin, c'est-à-dire, c'est anormal que des gens qui sont... Enfin, on le voit de toute façon, on va dire, dans les problèmes de la société actuelle. Ça tient pour beaucoup que les salariés des structures, en fait, n'ont absolument pas leur mot à dire. Les choses se feraient probablement très différemment si les salariés, enfin, si l'ensemble des gens qui constituent l'entreprise y votaient sous forme démocratique pour prendre des décisions. On aurait beaucoup moins d'approches où tout va au capital, tout va aux actionnaires, et puis ben, les salariés, c'est la variable d'ajustement pour augmenter le bilan de fin d'année.
Alors pour toi, ça paraît assez logique, mais pour d'autres, moins certainement. Est-ce que toi, tu as eu, quand tu as découvert le fonctionnement des scopes, tu as aussi appris à connaître des outils pour justement faire en sorte que le choix soit démocratique dans ta scope?
Bah, de toute façon, c'est un apprentissage de tous les jours. Potentiellement, quand on regarde les statuts de la SCOP, bon, il y a l'obligation, comme dans toutes les sociétés, de faire une assemblée générale une fois par an. Mais c'est un peu insuffisant, quoi. La question, c'est comment au quotidien, en fait, on fonctionne de manière à ce que chaque personne soit impliquée dans le fonctionnement de la structure et qu'on n'ait pas, finalement, les principes un petit peu où il y a une personne qui décide de tout et qui sont justifiés à la limite à l'AG. Il faut sortir de ça. Donc, nous, on est en train de mettre en place, justement, une méthode de travail où, justement, on alterne un peu les rôles et puis on fait en sorte d'avoir une implication de chacun dans la vie quotidienne de la structure. Mais après, ça, c'est vraiment chaque entreprise qui va avoir un fonctionnement propre et qui est adapté aussi à son domaine d'activité. Donc, c'est des choses, en fait, où il n'y a pas véritablement de fonctionnement unique, mais vraiment des fonctionnements qu'il faut rechercher, adapter aux besoins et au fonctionnement de la structure. Mais quand on crée une entreprise et qu'on regarde 10 ou 15 ans après, de toute façon, elle a évolué, elle a vécu. Et donc, on va dire, ce qui est bien avec le status quo, c'est que ça crée des bonnes bases, en fait. Après, tout reste à créer et c'est vraiment chacun. Ça dépend vraiment de chacun.
Alors, il existe aussi les skips, il me semble, où là, ce sont pas seulement les salariés qui ont le pouvoir de décision sur l'entreprise, ce sont aussi les clients et aussi une partière qui est souvent une municipalité ou l'État. Voilà. Est-ce que ça vous intéresserait de passer Fiabita dans ce genre de fonctionnement?
Alors, ça suppose un projet où l'intérêt collectif, c'est-à-dire, en fait, quand on dit SIC, il y a société coopérative d'intérêt collectif. C'est cette notion d'intérêt collectif, en fait, qui est assez importante à définir. Je dirais que quand on définissait le status quo, on se disait c'est une entreprise qui appartient à ses salariés. On peut se dire chouette, super, mais c'est totalement insuffisant. C'est-à-dire on peut avoir une entreprise coopérative qui fonctionne avec la majeure partie du capital qui est détenu par les salariés et dont la production, c'est n'importe quoi. Oui. C'est-à-dire, on va dire, il n'y a rien qui oblige une entreprise à travailler dans l'intérêt général.
C'est-à-dire qu'une SCOP peut construire des chars d'assaut.
Tout à fait. Donc, c'est ça. En fait, il n'y a pas de. On est juste dans la logique où il faut que le salarié soit majoritaire. Enfin, où le coopérateur, le salarié associé soit majoritaire. Là où c'est plus intéressant, c'est quand on commence à faire rentrer ce qu'on va appeler le bénéficiaire dans la structure. C'est-à-dire, une collectivité va exprimer un besoin. Je souhaiterais que vous développiez telle ou telle action. Et pour l'exprimer, en fait, elle rentre dans la structure et elle exprime donc par ça son besoin. Et puis, ça permet d'avoir un peu un feedback sur ce que produit la structure. Est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? Là, l'exemple qui me vient, c'est une SIC qui se situe à côté de Nogent et qui produit du chanvre. Donc là, on est toujours dans le domaine de l'éco-construction. En fait, ça part à la fois d'une volonté des paysans locaux de dire d'avoir une production de chanvre et d'avoir des débouchés, des collectivités locales qui se disent nous on aimerait bien voir un peu plus de chanvre dans les constructions et dans la rénovation et donc on a besoin d'avoir le développement d'une filière et puis on va avoir des gens qui vont être salariés de ces structures qui sont là pour la faire fonctionner, donc pour vendre les matériaux, faire les formations, conseiller les gens et puis être aussi dans les champs pour on va dire transformer le chanvre produit en un matériau de construction. Et donc en fait dans ces structures-là, en fait, on a tout le monde qui se réunit. On a à la fois ceux qui travaillent dans la structure, ceux qui sont bénéficiaires parce qu'ils sont au bout de la chaîne ou au début, et puis l'ensemble, en fait, faut imaginer en fait les assemblées générales qui sont assez rigolotes où justement on présente un peu l'avancée d'un projet. Et ce qui est vraiment, on va dire, au centre de ces structures-là, c'est un objectif. C'est l'objectif d'un développement, on va dire, d'un produit pour une demande spécifique. Donc ça, pour moi, c'est vraiment l'étape au-dessus. C'est il y a une volonté de démocratie, mais il y a en plus un projet un projet dans l'entreprise qui est hyper intéressant.
Et qui est d'intérêt collectif.
Voilà.
Très bien. Eh bien, merci Frédéric Loyaux d'être passé dans les studios de Studio ZEF. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on termine l'émission ? On arrive presque à la fin.
Je dirais simplement que nous, quand on a créé l'entreprise, bon, le fait que ce soit une entreprise, quand on a mis en forme ce projet de construction écologique, on est parti avec rien. Hein. Clairement, on n'avait pas la formation pour, on n'avait pas de connaissances du monde de l'entreprise. C'est pas forcément nécessaire de se dire il faut que je sois méga outillé pour pouvoir commencer. On peut mener son petit projet puis le faire avancer au fur et à mesure. C'est faut essayer en fait. Faut surtout pas hésiter à ça. Et puis aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les réseaux sont structurés. C'est-à-dire que si on veut demain créer une SCOP ou faire muter une entreprise en SCOP parce qu'on juge que c'est quand même sympa comme manière de fonctionner, on peut se faire accompagner. On peut se faire accompagner par le réseau des SCOP qui pourra faire un accompagnement technique et puis un accompagnement pour créer les statuts et puis aider un peu au démarrage la structure. Donc pour ça, en fait, il faut se renseigner auprès du réseau des SCOP. Enfin, bon, en fait, je pense que quand on tape SCOP sur Google, on arrive à trouver facilement ces réseaux-là. Et puis il y a de temps en temps des réunions d'information. Aujourd'hui, il y a une personne sur la région centre qui travaille un petit peu à l'animation du réseau SCOP et puis faire connaître un peu le statut auprès des différents partenaires de la création d'entreprise. Et donc, bon, faut se lancer, en fait.
Très bien, merci pour ce message encourageant. Voilà, c'était une émission réalisée dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire.